Isaac Franco, bonjour.
Bonjour Blaise.
Vous êtes analyste politique pour Radio Judaïka et chroniqueur de l'émission Chercher l'erreur, donc l'émission dans laquelle vous êtes avec Richard Loeb, fête cette année son 20e anniversaire. Que de chemin parcouru. Pour commencer, que ressentez-vous à l'idée de commencer cette nouvelle année d'existence pour Chercher l'erreur?
C'est toujours avec le même enthousiasme, comme l'actualité est changeante, naturellement c'est comme si c'était chaque fois la première fois. Et chaque fois que recommence une saison, je me retourne un peu en arrière et je vois que les années s'accumulent et que, effectivement, le 3 janvier 2023, ça faisait effectivement 20 ans que j'avais fait la toute première émission, 3 janvier 2003.
Justement, vous parlez de votre première fois. Racontez-nous, comment avez-vous commencé cette émission? D'où vient cette idée?
Alors, l'idée vient de... On est tout début de 2003. On est au cœur de la seconde intifada. Les bombes, les ceintures explosives, les assassinats de masse en Israël se multiplient. Et je vois surtout la presse, la manière dont elle en parle, plutôt dont elle n'en parle pas, dont elle parle des victimes, dont elle parle des assassins. Et je pense que la manière d'en parler est totalement inacceptable et qu'il faut analyser cette situation autrement ou faire entendre en tout cas une autre voix de ce qui se passe, sur ce qu'il se passe en Israël à ce moment-là. C'est une époque particulièrement tragique, difficile. Peu de jours passent sans qu'un Israélien soit assassiné par un terroriste arabe. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui m'a poussé à chercher... un contact qui me permette d'avoir une tranche horaire à la radio pour faire entendre une autre voix que celle qu'on entendait d'habitude sur les chaînes de télévision, les chaînes de radio et dans les journaux.
Passons à la géopolitique. Elle est très capricieuse, on le sait. Si vous deviez choisir, Isaac Franco, un moment qui vous a marqué au cours de ces 20 dernières années?
Il y a plusieurs moments qui m'ont marqué, bien sûr. D'abord, celui dont je viens de parler, c'est cette intifada qui mettra encore 2 ans pour se terminer, puisqu'elle va se terminer en 2005. Et puis, il y a eu la deuxième guerre du Liban en 2006. En 2008, il y a l'élection de Barack Obama, qui aura beaucoup changé les choses. On n'en prendra pas la mesure. On ne prendra pas la mesure de cette transformation qui va s'amorcer avec l'élection de Barack Obama, qui, pendant sa campagne électorale, avait promis de transformer profondément l'Amérique. Ça n'était pas que des mots. Et donc, ça, c'est un moment marquant dans l'histoire des États-Unis et donc du monde libre. Ensuite, il y a eu les guerres... les nombreuses guerres entre Israël et le Hamas, l'organisation terroriste du Hamas, les provocations du Hamas et les réactions israéliennes. Il y a eu la crise des subprimes en 2008 aussi, qui a bouleversé, le monde de l'économie, le monde des finances, l'effondrement des bourses. Il y a eu l'élection naturellement de Donald Trump, dont on n'a pas compris la portée. Mais si vous me demandiez de choisir un événement entre tous qui m'a personnellement plus marqué, c'est sans aucun doute, c'est une date, c'est le 6 décembre 2017, c'est la reconnaissance par l'administration américaine, dirigée par le président Trump, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Ça, c'est certainement un moment qui m'a placé dans presque une incapacité de parler lorsque j'étais au micro et que j'ai commencé à commenter cet événement, parce que ça m'a touché au-delà du fait politique. Je crois que c'était le moment où, plus que tous les autres, j'ai laissé poindre une émotion que j'ai eu énormément de mal à contenir.
À vous entendre, on a quand même l'impression que la géopolitique mondiale tourne beaucoup autour des États-Unis.
Oui, effectivement, elle tourne beaucoup. Et je dirais, ça n'est pas prêt de se terminer. Il y a une seconde grande puissance qui monte et qui a l'ambition de devenir la première, c'est la Chine. Mais il y a face à elle, vient des États-Unis, dont on promet la fin de l'empire chaque année. Pratiquement, on se dit les États-Unis s'essoufflent, entamer un déclin, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Mais il y a des ressources considérables. C'est encore les États-Unis qui mènent le monde libre, qui est la référence pour le monde occidental, pour le monde des démocraties. Donc oui, ce qui se passe aux États-Unis a des conséquences que nul autre pays au monde n'a sur nos vies. Donc il faut rester très très attentif à ce qui se passe effectivement à Washington, et c'est la raison pour laquelle, dans Chercher l'erreur, on accorde toujours une partie assez large à ce qui se passe outre-Atlantique.
En 20 ans de Chercher l'erreur, vous avez pu analyser beaucoup de gouvernements israéliens. On connaît la politique israélienne, elle est très instable. Avec du recul, comment jugez-vous ces remous constants de la politique israélienne ?
Alors, Israël va fêter ses 75 ans, tout bientôt, dans quelques semaines, quelques mois. Et on vient de... Et le 37e gouvernement vient de prêter serment. 75, 37, ça fait un gouvernement tous les deux ans. Bon, c'est vrai que c'est relativement instable, mais enfin, il y a eu de longues périodes de continuité. J'en prends pour exemple la présence au poste de Premier ministre de Benjamin Netanyahou, qui l'a occupé de 1996 à 1999, et puis de 2019 à 2021, et qui a retrouvé cette place. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup d'animation dans la vie politique israélienne. On ne s'ennuie jamais lorsqu'on la commente. Mais pour un pays qui a une représentation gouvernementale aussi fragile, aussi changeante, ça n'a pas empêché le pays de progresser et de devenir une des puissances dans le monde, pas seulement sur le plan militaire, sur le plan technologique également, sur le plan médical, sur le plan pharmaceutique. C'est devenu un pays central, un pays dont les voisins commencent à prendre conscience que c'est un élément indispensable de stabilité dans la région, avec lequel ils ont tout intérêt à normaliser leurs relations pour eux-mêmes pouvoir aller de l'avant. C'est toute la région qui est en train de bouger et qui est, malgré le tumulte des élections israéliennes successives, les difficultés à monter des coalitions, la fragilité de ces coalitions, les caprices des uns et des autres qui fragilisent ces coalitions, eh bien, il y a une prise de conscience dans la région, chez les voisins de l'État d'Israël, que Israël est là pour rester et qu'ils ont tout intérêt à normaliser leurs relations parce que leur propre avenir en dépend. Les accords Abraham sont un autre événement majeur de ces 20 dernières années dont on n'a pas encore pleinement mesuré l'importance et les conséquences. Pourquoi ? Parce que c'est Donald Trump qui en a été l'artisan et que l'administration suivante, celle de Biden, a tout fait pour minimiser l'importance de cette ouverture. Parce que ça permet de contourner le veto palestinien, c'est-à-dire la prise en otage par les Palestiniens du processus de normalisation entre Israël et ses voisins. Il a enfin commencé ce processus de normalisation. Je gage qu'il n'est pas prêt de se terminer.
Isaac Franco, je rappelle que vous êtes analyste politique pour Radio Judaïka et chroniqueur de l'émission Chercher l'erreur, dont vous allez fêter les 20 ans en ce lundi soir entre 17 et 18h.
Non, entre 16h et 18h.
Entre 16h et 18h aujourd'hui.
C'est une émission toute spéciale, effectivement, et je réunirai pour l'occasion ceux qui ont travaillé avec moi. Bon, je suis le responsable de l'émission, mais il y a quelqu'un qui me donne la réplique, quelqu'un qui est avec moi pour ce faire. Et donc cette émission, je l'ai commencée en 2003 avec Betty Dan, qui était alors la rédactrice en chef de la radio, la responsable, la directrice de la radio. Et ensuite, ça a été avec mon ami Gérard Grosjean, qui a été de cette aventure pendant 14 ou 15 ans. Puis ça a été avec Jim Moscovitch, qui a été ici le rédacteur en chef de la radio pendant deux ans, jusqu'au moment où il a décidé de la quitter. Et depuis maintenant bientôt 2 ans, c'est avec Richard Laube que je la fais. Et donc ce que j'ai souhaité pour ces 20 années, que la radio fête avec moi, et je lui suis très reconnaissant, de la célébrer avec moi, parce que c'est un bel exemple de continuité, de constance, et de fidélité aussi. J'ai voulu réunir eh bien, ceux qui ont travaillé avec moi, en particulier Gérard Grosjean, il y aura naturellement Richard Laube pendant ces 2 heures, et la présence de Olivier Sokolski, pour lequel j'ai de l'amitié et de l'admiration, qui animera cette émission toute spéciale, qui donc commencera, à titre tout à fait exceptionnel, à 16h, à 18h. Et on va, pour l'occasion, changer le format, puisque pour la première fois, et ce sera l'unique fois, on va ouvrir l'antenne aux auditeurs qui souhaitent intervenir, soit pour des critiques, soit pour fêter ensemble cet anniversaire, ou bien pour poser l'une ou l'autre question qu'ils souhaiteraient poser.
Bien, les notes sont prises. Merci beaucoup et bon anniversaire, Isaac.
Merci infiniment, Plaise. Merci pour cette interview.